Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Notre-Dame, question sur une restauration, comme le dit Le Figaro, par exemple, reconstruire à l'identique ou oser un geste architectural, alors que la réflexion de la flèche suscite déjà de vifs débats. On aperçoit déjà de nombreuses fractures parmi les architectes, différentes manières de considérer ce chantier. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité. Jean Nouvel, bonjour. Vous êtes un grand architecte à l'origine de plusieurs monuments illustres comme l'Institut du Monde Arabe, le musée du Quai Branly à Paris ou encore le musée du Louvre d'Abu Dhabi. Votre point de vue sur la réflexion de Notre-Dame, puisque vous êtes à la radio, vous pourriez nous dire par exemple quels sont vos plans pour Notre-Dame?
Je crois qu'il y a beaucoup de précipitation face à un événement absolument hallucinant. Il y a toujours une prise de conscience comme ça dans l'accident et quand on a l'impression qu'on ne pourra plus recréer ce qui a été là. Mais je crois qu'il faut prendre le temps de la réflexion quand même. Et je crois que les monuments historiques, vous savez, sont quand même bien protégés. Et il y a des hommes très compétents qui s'en occupent, les architectes des monuments historiques. Et il faut déjà prendre le temps du constat. Ce qui n'a pas été fait, ce qui va se faire. Mais la plupart des gens qui parlent ne savent pas exactement quel est l'état de la cathédrale aujourd'hui. Donc, toutes les suppositions, on a l'impression que tout le monde voudrait dire quelque chose pour se placer. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je crois que c'est pas trop le moment des grandes déclarations et des prévisions, je dirais.
Sur France Culture, justement, on a le temps, donc on va pouvoir réfléchir ensemble, Jean Nouvel. Qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible, par exemple, d'imaginer comment on va prendre la mesure de l'incendie, de ses conséquences et de la manière dont celui-ci a pu affecter la structure du bâtiment?
Écoutez, on a eu très très peur. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Notre-Dame n'est pas détruite quand même. Il faut savoir que quand Notre-Dame a été construite au XIIe siècle, elle a commencé par être brûlée et que ses combles ont été entièrement brûlés. Donc c'est un retour à une situation qu'elle connaît. L'essentiel est quand même là. Alors il y a évidemment des précautions à prendre puisqu'on ne sait pas si les murs sont complètement sains parce qu'avec l'incendie il peut y avoir des décompositions dans les joints ou des pierres qui s'effritent. Bon, donc toutes ces études là il faut les faire, donc on peut pas encore dire ce qui sera possible ou ce qui ne sera pas.
Comment tient une cathédrale comme Notre-Dame? Parce que ce qui frappe lorsque l'on voit ces murs, et hélas aujourd'hui ces murs sont plus visibles qu'auparavant, c'est qu'ils sont extrêmement fins. Alors, ils sont soutenus par des piliers extérieurs. Je ne sais pas quel est le terme.
Des arcs-boutants.
Voilà.
Il faut savoir que le gothique s'est lancé vers le ciel quand même. Hein, et que c'est un bâtiment high-tech à l'époque. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment le sommet de la technique et de l'art de construire. Donc, ce sont des bâtiments très, très fragiles. Il faut savoir que les voûtes qui sont à l'intérieur, au moment où elles se rejoignent, elles font une dizaine de centimètres d'épaisseur, quelque chose comme ça. Donc c'est de la dentelle souvent. Donc c'est une architecture quand même qui demande à être étudiée si elle a subi un soubresaut ou un coup. Mais bon, on sait quand même que pour l'essentiel, en dehors de la flèche qui a perforé le transept, l'essentiel de l'architecture en pierre est là. Hein, c'est quand même,
mais
c'est quand même important.
Justement, comment fabriquait-on à l'époque, comment étudiait-on ces structures qui sont des structures effectivement très étonnantes, surtout si on les compare à des fermes, même des fermes postérieures. Il y a généralement des murs beaucoup plus épais. Enfin bref, on voit que les architectes qui ont conçu ces cathédrales avaient des compétences particulières. Comment travaillait-il, Jean Nouvel?
Ben écoutez, je crois qu'il y avait simplement l'idée liée à la religion de l'élan vers le ciel et de faire tout ce qu'on pouvait pour la gloire de Dieu, tout simplement. C'est Dieu qui nous avait fait beaucoup de choses, souvent. Hein, donc là, on est passé par différentes époques. On a commencé beaucoup plus lourd et le roman était là avant le gothique, vous le savez. Et le gothique s'est affiné aussi et est devenu un peu décadent, on dit selon certains, avec le gothique flamboyant. Mais Notre-Dame, c'est quelque chose de très tendu quand même. Les historiens parlent d'une majesté, d'une magnifique majesté. Hein. Et je crois qu'il faut garder à l'esprit cette simplicité et cette noblesse. Tous les arcs-boutants, tout ce qui est là, tout cet élan vers le ciel, ces proportions très hautes et la lumière qui attaque ça d'en haut, tout ça c'est le gothique, tous les vitraux, tout cet esprit-là est là, ce n'est pas en danger, je crois pas. Ce qui est en question là maintenant, c'est comment on remet une toiture, comment on recrée une sécurité et comment on réintègre Notre-Dame de Paris en tant qu'exemple gothique, puisque Viollet-le-Duc voulait en faire par son intervention le prototype de l'idéal de la cathédrale gothique. Je crois qu'il faut revenir à ses ambitions.
Revenir à ses ambitions, mais alors, évidemment, je dois vous poser la question que tout le monde se pose, avec beaucoup de politiques qui y répondent d'ailleurs. Les architectes sont aujourd'hui moins audibles sur cette question. Faut-il reconstruire Notre-Dame à l'identique, Jean Nouvel? Est-ce que ça a un sens d'abord de se poser des questions pareilles?
Écoutez, si on ne veut pas perdre la mémoire, on conserve ce que l'on a quand c'est exceptionnel. Donc c'est ça que ça veut dire tout simplement. Donc on a des architectes des monuments historiques. Que pour cela, il y a beaucoup de règles et d'éthique sur la façon de conserver ce qui est là. La charte de Venise en particulier, qui est un...
Que dit-elle, cette charte de Venise?
Elle dit qu'il faut garder la lecture de ce qui est là, la lecture des différentes époques surtout, et qu'il y ait une clarté et pas de confusion entre ce qui a été fait par une époque et ce qui a été fait par l'autre. Bon, en gros, c'est le principal point. Mais il est très important.
Mais alors, par exemple, lorsqu'on fait une pyramide, au milieu de la cour du Louvre, est-ce que l'on fait quelque chose qui vous paraît sacrilège? Est-ce que l'on recrée, on modernise quelque chose qui existait précédemment, Jean Nouvel?
Non, parce que la pyramide de Pompéi n'enlève rien au Louvre. C'est un ajout. On peut dire que Notre-Dame a été bousculée comme ça par des transformations qui étaient autour d'elle. Le 19e siècle a été très dur avec elle, à part Viollet-le-Duc. C'est-à-dire que le fait que l'Hôtel-Dieu ait été reconstruit comme ça, et le fait que son petit parvis et les petits ponts qui arrivaient sur l'île et les maisons qui étaient en face, qui étaient à une échelle moyenâgeuse, tout cela donnait une majesté. À cette cathédrale, une échelle, et maintenant elle est devant une énorme place avec d'énormes bâtiments du 19e qui sont aussi gros qu'elle. Donc là, je pense que dans la sédimentation, il y a peut-être des choses à faire sur son accompagnement comme ça.
On va écouter Pei, l'auteur de la fameuse pyramide qui trône désormais dans la cour du Louvre.
If you build so much space underground,
si on bâtit un tel espace en sous-sol, le plafond est très bas et l'espace très large, 130 mètres sur 200, alors que la hauteur n'atteint au plus que 7 mètres. Cela ressemble à un passage souterrain, comme le métro, et ce n'est pas acceptable. Aussi doit-on donner au nouveau Louvre un centre qui est accueillant, généreux, avec de la lumière, de l'espace. Il ne doit pas forcément être une pyramide, il peut être un dôme, un arc, un cube, mais la pyramide est le plus attrayant esthétiquement pour mon regard.
Pei, le père de la pyramide du Louvre, Jean Nouvel, on l'entend réfléchir en quelque sorte à la fonctionnalité de la pyramide. Peut-on raisonner de la sorte avec Notre-Dame?
Je ne crois pas que le problème soit le même. Le Louvre n'était pas menacé de destruction. Le Louvre.
Non, mais il était menacé de, comment dirais-je, de devenir une sorte de mouvement, de monument abandonné, de.
Non, il y a eu différentes discussions. Ça aurait pu être un quartier de musée, ce qui se fait de temps en temps. C'est-à-dire, là, l'option qui a été prise, l'option officielle qui a été prise, c'était de regrouper tous les bâtiments et de faire une entrée commune. Donc, l'entrée commune, il fallait qu'elle se voie, mais ça n'enlevait rien à rien. Ça a complété quelque chose. Et ce dont parle Pei, c'est d'amener cette lumière dans les sous-sols et de faire en sorte qu'on puisse se promener de façon noble en accompagnant en particulier toutes les fondations, que ce soit tous les remparts qui sont en dessous. Puisque le Louvre, c'est une sédimentation aussi absolument incroyable.
Et cette sédimentation, on la voit aussi pour Notre-Dame avec les ajouts successifs, les ajouts obligatoires, les ajouts qui sont dus cette fois-ci aux aléas du temps avec l'œuvre, bien entendu, également de Viollet-le-Duc. Justement, comment vous interprétez ces ajouts successifs, Jean Nouvel ?
Ben écoutez, ça a été une polémique à l'époque et Viollet-le-Duc n'a pas respecté, je dirais, les règles traditionnelles. Mais il avait comme habitude, je dirais, de vouloir réinterpréter les choses. C'est quelqu'un qui a une forte culture historique et il a voulu donc magnifier Notre-Dame de Paris. Quand on voit toutes les gravures qu'il y a eu, la présence de sa flèche, par exemple, a changé tout le chevet. Et cette flèche, elle avait existé avant, mais dans des proportions beaucoup plus limitées, un peu plus trapues. Mais là, il cherche à chaque fois l'élan, lui aussi. Il cherche à retrouver l'esprit du gothique. Et là, il n'a pas respecté ce qu'il y avait avant. Uniquement, il l'a respecté d'une autre façon, c'est-à-dire il a voulu le magnifier, il l'a fait avec beaucoup de talent, je crois. Mais c'est toujours un homme polémique, c'est-à-dire que on pense que quand on change quelque chose et qu'on se prend pour Dieu, je dirais, bon, on se prend pour Viollet-le-Duc d'une certaine façon. Bon, donc je crois que là, il faut être prudent sur ces questions-là.
Mais alors, il y a différents exemples de reconstruction de bâtiments historiques à la suite de catastrophes. On pense évidemment à la reconstruction de la Fenice après un incendie qui était un incendie d'origine criminelle en janvier 1996, ou bien le Parlement de Bretagne. Alors cette fois-ci, c'était un autre incendie en 1994. Il y a des leçons à tirer de ces reconstructions de bâtiments historiques, Jean Nouvel ?
Non, mais à chaque fois, c'est le patrimoine qui est en cause, et c'est donc c'est le ressenti dans une ville, dans un pays, d'un manque tout de suite. Donc on veut combler ce manque. Et à chaque fois se pose la question, effectivement, de la pertinence ou de la légitimité d'une reconstruction à l'identique, parce que ça fait partie de la mémoire. En général, ce sont des lieux tout à fait remarquables sur le plan de l'architecture, et beaucoup de personnes ont la nostalgie de cela. Donc ils veulent retrouver leur bien. Et finalement, dans la reconstitution à l'identique, on peut aussi reconstruire à l'identique, mais rajouter peut-être quelques éléments qui montrent qu'il s'est passé quelque chose. Mais tout ça, c'est de la nuance quand même. Ce sont des bâtiments qui demandent beaucoup de tact. On n'entre pas là-dedans en tirant conquis.
Bon, il y a quand même, pour la reconstruction de Notre-Dame, mais pas seulement, des chapelles chez vous, les architectes. Alors, le grand public les découvre. Il découvre, par exemple, qu'il y a des gens qui utilisent le béton, d'autres qui préfèrent utiliser le bois. Il y a aussi ceux qui pensent qu'une charpente, aujourd'hui, c'est une charpente métallique. Vous faites partie de quelle chapelle, Jean Nouvel ?
J'ai pas trop de chapelle. Je suis quelqu'un qui...
Vous êtes
je suis un contextualiste. Hein, c'est-à-dire que je pense que quand on construit, c'est aussi pour mettre en valeur ce qui est autour. C'est pour mettre en valeur aussi tous les éléments historiques et tout le contexte. Mais le contexte, c'est pas le site uniquement. C'est aussi les hommes pour qui on travaille. C'est aussi toute une dimension culturelle qui est celle de la société. Il faut être en accord avec tout ça. Et le modernisme du XXe siècle a fait des propositions sur Paris que tout le monde connaît, qui ont été polémiques au premier degré, celle de Le Corbusier en particulier avec le plan voisin qui voulait démolir la moitié de Paris et construire des énormes tours au milieu, pas très loin de Notre-Dame d'ailleurs. Bon, donc on sait aussi que ces attitudes-là, du temps où on croyait que finalement avec la modernité tout était possible, que qu'on pouvait refaire le monde et qu'on pouvait faire table rase, on sait aujourd'hui qu'on peut pas faire table rase, on sait qu'on n'a pas envie de perdre la mémoire, et on sait le nombre de bêtises qu'on a fait aussi. Bon, alors donc il y a des modernistes encore, un peu brutalistes, on pourrait dire.
Ils veulent quoi ? Ce sont ceux, par exemple, qui aiment les charpentes béton ?
Non, ça c'est encore autre chose. C'est que la charpente béton, ça pourrait être pour des raisons objectives, de dire que on fait ça moins cher et on fait ça avec une sécurité absolue parce que finalement ça ne brûle pas, c'est très solide. Bon, si on considère que les combles ne se visitent pas, c'est quelque chose qui est possible. Mais moi je crois
alors
que...
ça brûle pas, mais alors apparemment certains disent ça vieillit mal les charpentes béton.
Écoutez, ça, le béton, il faut le contrôler. Mais moi, je crois beaucoup à l'essence des choses. C'est-à-dire que le Canada Dry, j'aime pas. C'est-à-dire que quand on fait une chose qui ressemble à ce que c'est, alors que ce n'est pas ça, en architecture, en général, c'est pas très bien. C'est-à-dire que une architecture, c'est noble. C'est un art, l'architecture, d'abord. C'est l'art de construire. Et c'est l'art le plus proche du public, puisqu'en général, on devrait vivre tous dans de l'architecture.
Oui, mais d'un autre côté, si on observe les environs de Notre-Dame, alors il y a l'Institut du Monde Arabe qui est en face, que vous avez construit.
Qui est un hommage direct à Notre-Dame, parce qu'avec sa...
C'est vous qui l'avez construit.
Oui, tout à fait.
Je le rappelle.
Mais il y a une perspective qui est ouverte en plein milieu pour ce qui cible la flèche de Notre-Dame. C'est peut-être pour ça que je suis très sensible à la flèche.
Parce que pour vous, quand vous avez construit l'Institut du Monde Arabe, déjà, vous songiez à cette flèche, elle vous paraissait être un élément particulièrement distinct de Notre-Dame ?
Non, j'ai fait en sorte que l'Institut du Monde Arabe soit le plus possible en dialogue avec le chevet de Notre-Dame de Paris. Le dialogue, finalement, entre deux cultures. Ça me paraissait très important. Il faut savoir qu'à l'époque, la commission décide de demander à ce que le bâtiment soit construit le plus loin pour qu'on le voit pas. Mais ça, donc, c'est plutôt un dialogue tout à fait constructif, je pense.
Et puis alors, si on continue dans le périmètre de Notre-Dame, de l'autre côté de la Seine, il y a les thermes de Cluny, le musée de Cluny qui abrite la dame à la licorne. Oui. Alors là, les thermes de Cluny sont probablement l'un des monuments les plus anciens de Paris. Et on a construit un musée qui est dans un style extrêmement moderne, avec du verre, avec du métal. Donc on n'a pas du tout essayé de construire un musée.
C'est un travail d'une grande subtilité par un architecte très très très, très nuancé.
Comment justement vous le qualifiez ?
Qui s'appelle Desmoulins. Et c'est la dernière addition là était un véritable chef-d'œuvre.
Justement, si vous deviez le décrire avec vos mots aux auditeurs, Jean Nouvel, cet ajout, parce que il est intéressant, on a affaire à un monument qui est un monument extrêmement ancien, des ruines.
C'est quelque chose qui joue sur la culture moderne, mais je dirais avec une dimension scarpaïenne. Scarpa, c'est un architecte moderne qui a travaillé à Venise, souvent dans Venise, et avec des détails sur la pierre, sur les assemblages de pierres. Ici, Desmoulins jouent tout à fait sur des nuances de pierre ou de béton qui sont très 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 très, très subtiles. Il y a de la dentelle aussi qui est mise là-dedans. Il y a des escaliers qui sont dessinés en métal, qui sont dessinés avec une finesse incroyable. Donc, il sait où il est. Il travaille pour approfondir le lieu.
Et alors, ça, justement, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui dénature le lieu ou pas, hein, c'est une question tout à fait ouverte, dans la mesure où là, on a vraiment affaire à un ajout dans un style qui est radicalement différent de ce qui existait à l'origine, sachant qu'une reconstruction à l'identique des thermes de Cluny...
Oui, ce n'est pas le sujet.
N'aurait probablement pas de sens. Je ne sais pas ce que vous en diriez en tant qu'architecte, Jean Nouvel.
Non, je pense qu'il faut continuer l'histoire, toujours. Hein. Chaque génération a son travail à faire. Il y a nos nouveaux programmes. Le musée de Cluny avait besoin d'un nouveau programme là. Il a été fait tout à fait en harmonie et en complément de tout ce qui est là. C'est exactement ça, l'histoire de l'architecture.
L'histoire de l'architecture, c'est ce mélange, un mélange qui, de toute façon, doit passer aussi par la question de l'urbanisme. Vous êtes prononcé sur l'UBU. Urbanisme jadis, il y a là aussi une place, une physionomie du parvis de Notre-Dame qui est très différente, j'utilise là aussi un euphémisme, de ce qu'elle était auparavant.
Oui, ça c'est pour moi le principal problème de l'intégration de Notre-Dame après le passage du 19e siècle. Là. Avant il y avait l'Hôtel-Dieu qui était face à la cathédrale, qui était un petit bâtiment. On a reconstruit un très très gros au nord, et ce bâtiment-là est en compétition avec Notre-Dame, et puis tous les bâtiments administratifs qui sont en face. Donc c'est une énorme place, et l'échelle de la cathédrale se perd, alors qu'avant il y avait des petites maisons et un petit parvis et des ponts habités. C'était tout à fait autre chose.
Jean Nouvel, on se retrouve dans quelques instants, on va évoquer la reconstruction de Notre-Dame et le concours d'architecture, puisque celui-ci est lancé. Alors en France, on a une longue tradition de concours d'architecture et de polémiques liées au concours d'architecture. On en parlera également avec Dominique Alba, elle est directrice générale de l'atelier parisien d'urbanisme. Il est 8h sur France Culture. Nos deux invités, l'architecte Jean Nouvel, qui a notamment construit de nombreux monuments à Paris, le musée du Quai Branly, l'Institut du monde arabe, ou aussi le musée du Louvre d'Abu Dhabi, et qui a participé à de nombreux concours d'architecture, et Dominique Alba, qui connaît très bien ces concours d'architecture. Elle est directrice générale de l'atelier parisien d'urbanisme, et elle a débuté sa carrière au sein de l'agence de Jean Nouvel. Alors, votre réaction, Jean Nouvel, vous faisiez des grimaces pendant la chronique de Stéphane Robert. Les politiques qui s'intéressent à l'architecture, ça n'a pas l'air d'être votre tasse de thé.
Ah, pas du tout. Je pense que les politiques ne s'intéressent pas assez à l'architecture. Donc je suis tout à fait content que ce débat se lance. Je parlais tout à l'heure de tranquille majesté. Par rapport à la flèche, ça fait partie du débat. C'est-à-dire que c'est peut-être pas le lieu d'une démonstration tonitruante. Voilà. Bon, il faut faire attention à tout ça. Et effectivement, les monuments historiques sont là pour quelque chose et ils doivent protéger ce qui est notre patrimoine.
Bon, mais qui veut défigurer Notre-Dame ? Est-ce qu'il y a des exemples d'édifices de ce genre qui ont été défigurés par l'un de vos confrères ? Vous n'êtes pas obligé de nous citer des noms.
Non, en tous les cas, ce qu'on peut constater, c'est que quand quelque chose est démoli, c'est quelquefois dur de refaire quelque chose qui est du même niveau. Quand on regarde les Halles, par exemple, c'est un exemple total.
D'ailleurs, c'est un concours d'architecture.
Il y a eu beaucoup de concours d'architecture, oui.
On
peut penser que les pavillons de Baltard auraient pu être presque l'équivalent en termes de sédimentation historique, en termes de popularité de Notre-Dame de Paris, puisque Notre-Dame de Paris était un lieu de rencontre sociale et spirituelle. Malheureusement, on a vu que c'était très difficile.
Dominique Alba, je crois qu'il y a une basilique pas très loin de la cathédrale Notre-Dame qui est aujourd'hui justement dotée ou qui va l'être. Enfin bref, la flèche de la basilique Saint-Denis est un autre sujet et finalement un sujet assez proche de Notre-Dame.
Oui, je crois qu'au moment où on se pose toutes ces questions avec cette idée de mémoire, il est clair qu'à 10 km de Notre-Dame de Paris, il y a aujourd'hui un chantier de reconstruction qui n'a pas trouvé ses financements puisqu'il lui manque 10 millions d'euros, mais qui a fait le pari que, en essayant de transmettre l'art de bâtir, il saurait attirer les financements nécessaires pour reconstruire à l'identique, parce que là, pour le coup, il ne s'agit pas d'une réinvention puisque les pierres sont disponibles, qu'en fait, cet objet a été démonté, donc il est simplement remonté. Mais l'idée a été de dire, on va transmettre l'art de bâtir. Et dans les polémiques autour de Notre-Dame, il faut pas oublier celles qui sont en train de naître et qui me paraissent extrêmement intéressantes sur l'idée de ces métiers qui sont une particularité française, qui est l'art du patrimoine sous toutes ses formes. Et donc, je trouve que l'histoire se rappelle toujours à nous, la basilique Saint-Denis et puis Notre-Dame de Paris sont des sœurs à plusieurs titres et qu'au moment où on se pose la question du Grand Paris, qu'elles aient toutes les deux des problèmes de flèche, c'est intéressant.
Mais alors pourquoi la flèche de la basilique Saint-Denis a-t-elle déclenché tant de polémiques, Dominique Alba ? Est-ce que vous pouvez nous remémorer
Elle n'a pas déclenché de polémique, la flèche de la basilique Saint-Denis, excusez-moi, parce qu'elle a été simplement démontée. Par contre, ils n'arrivent pas à remobiliser parce que la basilique Saint-Denis est à l'ombre du Grand Stade, on va dire ça comme ça, et que c'est d'autres histoires qui ont pris la place sur le territoire de pleine commune. Donc aujourd'hui, c'est le temps de la basilique qui revient et peut-être que Notre-Dame va remettre toutes les cathédrales au premier plan. On a un peu plus de 90 cathédrales en France, donc ça va être des jolies questions. On va dire que c'est l'histoire et c'est peut-être un cadeau aussi que Notre-Dame, avec ce qui lui arrive, qui est terrible, va offrir à ce début du 21e siècle qui se pose beaucoup de questions sur les questions d'architecture.
Et vous êtes en train de dire qu'il manque 10 millions d'euros, alors que 10 millions d'euros, c'est une somme qu'on a réunie pratiquement... C'est pas chaque dizaine de minutes pour Notre-Dame, il manquerait cette somme-là pour la basilique Saint-Denis ?
Il manque cette somme-là. Aujourd'hui, c'est ce qui est dit dans la presse par Patrick Brauzek et les personnes qui s'occupent de cette basilique.
Est-ce que ça a un sens pour vous, Jean Nouvel, de faire un concours d'architecture pour la flèche de Notre-Dame ?
Un concours d'architecture peut exister, mais il faut voir ce que ça veut dire. Et le danger des concours d'architecture, c'est pas les réponses uniquement, c'est aussi la composition du jury. On a quand même vu beaucoup d'exemples mal tournés quand même. Je crois qu'effectivement, Notre-Dame de Paris peut se prêter à un témoignage lié au XXIe siècle à cause de son histoire, un témoignage déjà discret. Tout est dans la nuance là-dedans. Hein.
Ben oui, parce que même alors, Dominique Alba, par rapport à ce que vous disiez, il y a effectivement différents avis hein, sur la flèche de Saint-Denis. Quand je parlais de polémique tout à l'heure, il y a des gens qui sont contre la reconstruction à l'identique, d'autres qui sont pour. Mais tout à l'heure, vous disiez, Jean Nouvel, qu'il fallait écouter les architectes de la ville
d'accord,
de Paris.
Mais il faut écouter le Premier ministre aussi, qu'il ne dit pas que la question est réglée. Il dit que le concours, il tranchera sur le fait de savoir si cette flèche est reconstruite à l'identique ou pas. Donc peut-être que le concours, il porte sur plus que la flèche, il porte sur le témoignage du XXIe siècle qui peut exister dans la sédimentation que représente Notre-Dame de Paris depuis le début.
Dominique Alba.
Oui, sur cette expression, moi je trouve heureux que l'État français se soit exprimé sur un délai et sur l'engagement d'un processus, parce que le pire, ça serait rien. Et comme l'a très justement dit Jean en s'exprimant dans les minutes précédentes, c'est un drame et les gens ont besoin de retrouver tout d'un coup quelque chose qui était leur histoire. Donc qu'on ait un délai, il est clair qu'on rentrera dans Notre-Dame de Paris dans 5 ans. Est-ce qu'elle sera entièrement reconstruite ou que toutes les œuvres auront été réparées? Rien n'est moins sûr. Mais voilà, on rentrera dans Notre-Dame. Ensuite, sur la question du concours, donc Édouard Philippe a bien exprimé le fait que c'était la flèche qui était au cœur de ce débat, parce qu'elle a été au cœur de débats dans les siècles précédents, donc c'est toujours intéressant. Mais vous parliez des concours, vous avez cité la pyramide de Peille. Ça n'est pas l'objet d'un concours. Et le résultat, a priori, est heureux. Vous avez cité l'Opéra Bastille, vous avez cité, je crois que vous vouliez parler du Grand Stade, vous vouliez parler de Beaubourg.
Oui, alors,
donc
là, on a affaire
à des grands objets. Donc
on
prend les grandes icônes, hein, on ne prend pas les milliers de concours qui font qu'en France, on a aujourd'hui, grâce à cette politique de concours, des architectes qui sont extrêmement connus dans le monde entier, dont mon voisin.
Mais comme les journalistes ont mauvais esprit, évidemment, ils vont d'abord se souvenir des concours qui, sinon mal tournés, en tout cas, ont suscité différentes polémiques. On peut peut-être démarrer par le dernier, celui sur la canopée des Halles. Canopée des Halles qui a été, alors cette fois-ci, un concours un peu particulier, puisque là, on interrogeait le public.
Il y a eu deux étapes dans la canopée des Halles. Il y a eu d'abord un concours d'organisation de l'espace général, où là, le public s'est fortement exprimé par le biais d'associations extrêmement présentes dans le quartier des Halles et qui a conduit à retenir un processus en deux temps qui était l'organisation d'un jardin le plus grand possible et un deuxième temps qui a porté sur la transformation de l'espace au-dessus de la gare et du forum. Donc ensuite, il y a eu ce concours d'architecture qui a fait concourir 10 équipes et dont le lauréat a été choisi à l'unanimité du jury, architecte compris. Je me permets de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a une polémique, ce qui veut bien dire qu'entre le concours et la réalisation, il se passe des choses. Et c'est ce que disait Jean, il faut des équipes, il faut accompagner. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'art de bâtir, parce que c'est l'art de bâtir qui rend les choses belles. Ce n'est pas uniquement le dessin de départ.
Alors cette polémique, si on veut présenter quelques-uns de ces points, il y a tout d'abord une polémique technique parce que cette canopée, donc alors il faut que les auditeurs imaginent, auparavant il y avait les Halles de Baltard, ensuite il y a eu un centre commercial qu'on peut qualifier de pas très joli malgré tout. On a décidé donc de recouvrir avec une canopée technique qui avait un défaut, c'est qu'elle laissait passer l'eau, c'est-à-dire que ça n'était pas en fait une couverture, et puis on l'a faite dans une couleur, alors là je m'en voudrais de me prononcer, mais disons douteuse, Dominique Alba.
Ce qui est intéressant sur les Halles, tout le monde parle toujours que dans les Halles, il y a un mauvais sort, parce que c'est quand même le cœur de Paris, et je pense qu'il y a très peu de villes aussi patrimoniales que Paris, qui ont eu leur centre qui a été renouvelé comme ça, on va dire 3 fois en 40 ans. Voilà, ça va être quelque chose de comme ça. Donc la couleur, on peut repeindre, c'est pas très grave.
Non,
la canopée.
On aurait pu bien peindre d'emblée, Dominique Alba.
C'est exact.
C'était pas interdit.
On peut toujours mieux faire d'emblée, mais parfois on ne le fait pas. Mais par contre, ce qu'a permis la canopée, c'est qu'elle a créé cet espace qui est une grande place couverte et que quand vous y circulez, tout le monde s'y retrouve et les flux extrêmement importants qui sont aux Halles, qui font que se rencontrent des gens de, je dirais, pas de la France, mais en tout cas de l'agglomération parisienne, ça c'est clair, ça fonctionne.
Non, elle a donné une sorte de paysage avec une
paysage,
profondeur de champ, effectivement.
Elle a libéré Saint-Eustache, elle a retrouvé, Jean va me taper dessus, mais des expressions.
Non, je vais l'en empêcher, mais je vais quand même lui demander après
sur
de se prononcer.
Sur sa périphérie. Et elle pose la question, elle est arrivée, je vais être très très brève, elle est arrivée à un moment compliqué dans l'histoire de l'architecture, comme il y en a beaucoup, qui est qu'aujourd'hui on passe dans des systèmes, on veut du développement durable, des choses légères, des choses réversibles, des choses mutables, et elle est l'expression de quelque chose de lourd. Voilà. Mais autrement, elle rend tous les autres services.
Moi, je pense
et elle
que c'est pas le problème.
Jean Nouvel, vous en pensez quoi de ce machin jaune qui recouvre les halles?
On ne peut pas dire un machin jaune qui recouvre les halles quand même.
C'est Stéphane Robert qui m'a soufflé le mot.
Le machin jaune ne m'intéresse pas. Ce qui
Jean Nouvel dit encore pire que moi.
Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est le jaune en tant que tel. Mais pourquoi on est arrivé là? On est arrivé là parce que les politiques n'ont pas pris leurs responsabilités. Parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu juger. Le premier concours. Ils n'ont même pas donné un programme. Il n'a pas été quantifié. Donc, ils ont laissé décider les associations avec les Verts qui avaient un pouvoir politique très fort à l'époque et qui ont dit, on construira le plus bas possible. Eh ben, le pavillon actuel, il est trop bas, tout simplement. C'est une chose qui n'est pas à la hauteur de Baltard. C'est quelque chose qui n'a pas une présence urbaine et le jardin, il est pas grand chose. Donc, reconstruire les Halles quand on part de Baltard pour en arriver là, c'est une catastrophe.
Et, pourquoi? Continuez quand même dans les catastrophes parmi les concours d'architecture qui ont donné lieu à des opérations facétieuses. Là aussi, j'utilise un euphémisme. On peut quand même rappeler les conditions dans lesquelles l'Opéra Bastille à Paris s'est construit, Dominique Alba. Alors là, François Mitterrand avait décidé de faire un concours et puis finalement, les dés ont été un peu pipés et manque de bol. Non, alors vous faites nom de la tête, donc je vais vous laisser raconter votre version de l'affaire.
Oui, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Jean Nouvel, qui est extrêmement important, qui est le rôle du politique et sa capacité à pouvoir décider. Pour le Centre Georges Pompidou, le concours était présidé par Jean Prouvé, et pas par un politique.
Jean Prouvé qui était un...
ingénieur.
Mais architecte, mais voilà, designer.
Un grand homme. Et ce que je veux dire, c'est que le concours d'architecture a cette particularité, c'est qu'il ne choisit pas. Il classe des propositions et il les propose au maître d'ouvrage qui en fait ce qu'il veut. Donc parfois, il choisit le lauréat désigné, parfois il ne le choisit pas. Aujourd'hui, les concours sont pilotés par les politiques et pas par les gens de l'art. Donc la conversation s'est un peu déplacée et du coup c'est pas toujours facile.
Alors, l'Opéra Bastille, c'est encore autre chose. L'Opéra Bastille.
L'Opéra Bastille, c'est qu'il y avait pas de projet. Je n'étais pas dans le jury, mais Jean Nouvel était dans le jury, donc il pourra en parler. En tout cas, l'Opéra Bastille, c'est le processus des grands projets de François Mitterrand, avec l'idée d'ouvrir ses projets à tout le monde, ce qui pourrait être quelque chose pour Notre-Dame.
Ce qui a bien marché pour Beaubourg, puisque Beaubourg,
oui, ce
c'est un inconnu qui a gagné. Renzo Piano.
Mais le jury était un peu différent et donc il y a eu, je pense, quelque chose qui fait que le programme ne rentrait pas exactement dans le terrain et c'était compliqué.
La difficulté sur l'opéra, c'est que c'était un concours qui demandait beaucoup de travail et très très complexe et que finalement les professionnels ne sont pas venus.
Mais alors Jean Nouvel, moi, c'est ce qu'on m'a expliqué dans les livres d'histoire, on m'a dit que François Mitterrand voulait faire gagner un architecte, qu'il a cru en prenant le projet actuel.
C'est l'histoire de Richard Mayer qui est fausse.
Pourquoi? Elle est fausse, pourquoi?
Parce qu'en fait, bon, tout le monde
on
cherchait...
On va avoir un scoop, parce que tout le monde pense que Mitterrand voulait faire gagner Mayer, vous savez.
Tout le monde cherchait dans ce jury les architectes un peu connus qui avaient fait quelque chose, parce qu'il n'y avait pas grand-chose quand même dans les 800 projets, je ne sais pas combien. Et en particulier, Richard Mayer avait répondu. Et tout le monde cherchait le Richard Mayer et le projet qui a été retenu
est une sorte de
Carlos Hoth est une sorte de plagiat dans son rendu de Richard Mayer.
Dans le jury
beaucoup de gens pensaient que c'était Richard Mayer et d'autres ne pensaient pas, les architectes dans le jury ne pensaient pas que c'était Richard Mayer. Et François Mitterrand a fait croire ou a dit à un moment qu'il pensait que c'était Richard Mayer, ce qui est pas possible puisque de toute façon qu'on a décapsulé après et qu'on savait très bien que c'était pas Richard Mayer. Donc cette ambiguïté là lui a profité parce que le bâtiment qui a été construit n'a pas été formidable et je pense que c'était une position de tactique. Voilà.
Et puis, par ailleurs, bon, alors, outre l'aspect esthétique des choses que chaque passant peut juger à sa guise, ce que l'on peut dire aussi, c'est que Renzo Piano gagne par exemple le concours pour Beaubourg, c'est un inconnu, il va faire la carrière que l'on connaît.
Avec Richard Rogers.
Avec Richard Rogers. Carlos Hoth gagne le concours pour l'Opéra Bastille, à ma connaissance.
C'était un inconnu aussi.
Mais ça allait un peu rester.
Voilà.
Donc voilà, ce qui est... alors c'est pas une preuve, mais bon, c'est quand même pas non plus un argument en faveur du choix éclairé de François Mitterrand.
Non, mais une fois encore, tous ces grands projets, il faut quand même qu'il y ait un engagement politique et effectivement qu'il y ait aussi des conditions de concours qui soient positives. C'était pas le cas. Il y avait pas les conditions de l'entrée des architectes qui pouvaient répondre n'étaient pas là.
Puis alors j'ai un camarade qui d'ordinaire intervient à 8h50 qui boue à côté de moi, c'est Aurélien Bélanger. Et le romancier s'intéresse beaucoup à l'architecture et à l'urbanisme. Vous voulez intervenir, Aurélien?
Ben, en fait, j'ai trouvé ça assez singulier parce qu'en entendant sur cette antenne un descendant de Viollet-le-Duc, donc qui possède les droits moraux, défendre la flèche de son, je crois, arrière-grand-père. Bizarrement, j'ai été rassuré, je connais des gens qui l'ont été aussi, alors que en général, il y a une opposition entre une sorte de patrimoine extrême, on dit qu'on peut rien faire en France et on voit que toutes les constructions ont occasionné des recours pendant 20 ans, tout a été compliqué. Et là, on a eu soudain tellement peur qu'on fasse n'importe quoi par rapport aux premiers projets qui sont sortis ou des trucs de Calatrava qui ont été exhumés.
Calatrava, c'est l'architecte de l'aéroport de Lyon, qui est quelqu'un qui travaille le béton de manière...
Ça ressemble à des os de sèche géants.
Voilà.
On aime ou on n'aime pas, mais bon, voilà.
C'est de la dentelle de béton.
Et pour la première fois, du coup, je me suis dit, c'est la première fois de ma vie que je me voyais défendre le patrimoine en me disant il y a un tel danger de n'importe quoi. Et en soi, c'est extrêmement intéressant, par ailleurs, si on reconstruit Notre-Dame, qu'on soit la seule époque qui n'est pas capable de proposer quelque chose de nouveau. Et on restera, je pense, la risée des 8 siècles qui viennent, l'époque où ils n'avaient absolument plus aucun courage et ils étaient terrorisés.
Dominique Alba, dites tout le mal que vous pensez de la remarque d'Aurélien.
Je pense que c'est comme ça qu'on fait des grosses erreurs. Je pense que...
Écoutant les romanciers.
Non, pas du tout. En lisant les romanciers. Peut-être en les écoutant, vous avez raison, mais en les lisant, tout va bien. Mais ne pas perdre la mémoire est important. Et les exemples que nous avons cités, comme les Halles ou l'Opéra Bastille, mais les Halles, on a perdu la mémoire du lieu des Halles et c'est difficile et ça nous manque. Et donc les exercices qui ont succédé, je dirais que la canopée était celui qui s'emparait de façon peut-être la plus littérale de cette mémoire. Alors ça peut être maladroit, on peut ne pas l'aimer, mais au moins on peut lui reconnaître cette qualité, c'est qu'il a refait un parapluie dans lequel les gens se retrouvent. Et ça c'est important, et je crois que par rapport à ces questions-là, la façon dont Notre-Dame peut nous interpeller, c'est qu'elle est tout ça. Et ce qu'a dit Jean Nouvel est très important, dont on a très peu parlé, je suis même étonnée que l'État français ne l'ait pas dit, c'est la question de l'île de la Cité. Il y a une mission qui avait été engagée sur l'île de la Cité avec Dominique Perrault et Monsieur Bélaval, qui visait justement à retrouver et à
un
écrin
et le président
des Monuments Nationaux, d'a retrouver un écrin pour une situation qui était imparfaite, parce que c'est quand même un parking qui est devant Notre-Dame. C'est un grand parking. Voilà.
Le projet de Dominique Perrault ressemblait très en
Belgique
à un grand centre commercial, étant entendu qu'il y avait 26 millions de visiteurs à l'année et que c'était idiot de les laisser sur les 4 boutiques de souvenirs un petit peu moches sur le côté, au bord de l'Hôtel Dieu, et que ça aurait été bien de faire un gros centre commercial. Et on voyait sur les projets que j'étais allé voir exposer à la Conciergerie, ça ressemblait à un très très gros centre commercial souterrain en Belgique.
Il faut en parler.
Eh ben, parlons-en avec Jean Nouvel,
oui,
par exemple.
Je crois qu'effectivement, si on veut laisser un témoignage du XXIe siècle, et c'est une occasion de le faire, effectivement, c'est pas automatiquement c'est dans la reconstruction du bâtiment lui-même, mais c'est dans son contenu, c'est dans son environnement aussi.
Contenu, c'est-à-dire ?
Son contenu, c'est-à-dire qu'il y a des meubles dedans, il y a des choses qui sont de l'ordre de la décoration, entre guillemets, il y a des vitraux qui sont démolis, il y a des choses comme ça.
Bon,
il y a de la place.
Modifieriez plus
dans la sédimentation, c'est ça, c'est avoir des témoignages de la succession de tous les siècles ou toutes les époques. Je pense que c'est possible aussi. Le monument pour la déportation, par exemple, qui est quelque chose qui est arrivé avec une pertinence totale.
Sur le volume. Qui est juste à quelques mètres de Notre-Dame.
Et donc la reconstitution d'un espace qui soit à l'échelle de Notre-Dame de Paris ou qui présente Notre-Dame de Paris dans un contexte beaucoup plus pertinent par rapport à l'histoire et dans une invention du XXIe siècle par rapport à ça, ces prolongements-là, ça pourrait faire du sens.
Mais alors, est-ce qu'un concours justement est la meilleure des choses? Parce que vous-même, Jean Nouvel, comme tous les architectes. Comme vous êtes un grand architecte, vous avez eu particulièrement des problèmes avec les concours. Le concours du Grand Stade en 1994, la rumeur veut qu'Édouard Balladur voulait refuser parce que vous étiez associé au groupe Bouygues et que celui-ci avait déjà eu la licence pour les téléphones mobiles.
Vous, vous en savez des choses.
Vous avez fait un procès à l'État français et vous avez continué à mener vos explorations pour...
J'ai gagné un cours européen, oui. Le stade était déjà construit. Non, ce qu'il faut voir là, ce sont les conséquences. C'est-à-dire que...
Non, mais d'abord, j'aimerais votre ressenti. Vous avez gagné ce concours et vous l'avez perdu politiquement.
Oui, oui. Écoute, c'est des choses qui arrivent.
C'est la règle du jeu des concours.
C'est la règle du jeu des concours.
C'était un concours de concession. Ce qui était important, c'était de faire un stade de la fin du 20e siècle qui soit le plus utile possible, avec le maximum de spectacles, qui soit à la fois un bon stade de football, mais aussi un stade olympique. Pour ça, il fallait ne pas rester sur les modèles actuels. Il fallait bouger les tribunes, il fallait aussi... couvrir et découvrir, et je proposais un stade qui aurait eu trois fois plus de manifestations annuelles que celui qui a été retenu. Or, c'est le seul critère qui aurait permis à l'État de me mettre ailleurs, c'est que si mon projet en termes d'efficacité avait été moins efficace que là, ce qui était évidemment le contraire. Donc, on est passé à côté de quelque chose qui aurait été beaucoup plus flexible, beaucoup plus couvrable, découvrable, et aussi beaucoup plus modulaire, puisqu'il y a le PSG qui déjà voulait aller là, qui ne voulait pas y aller avec Canal Plus à l'époque, et quand ils ont vu le projet, ils ont dit, on vient. Pourquoi? Parce qu'il y avait une jauge variable qui faisait que le stade était plein, même quand il y avait 15 000 personnes.
Et ce projet, donc, n'a pas été choisi, Dominique Alba. Alors, vous dites que c'est la règle du jeu, bon, évidemment,
non,
mais...
C'est que les concours classent et que le maître d'ouvrage...
C'est une histoire qui devrait être une histoire juridique.
Qui a été une histoire juridique.
Mais ce que je veux simplement dire, c'est que les concours, ce ne sont pas toujours des très grands objets de cette échelle-là. Il y en a en France beaucoup, et c'est un des rares pays au monde où cette faculté existe et est générale, même si aujourd'hui certains tendent à la réduire. Le concours classe, et le maître d'ouvrage décide. Voilà, c'est important.
Aurélien Bélanger, parce qu'il faut quand même que vous vous défendiez. Vous avez été violemment attaqué par votre voisine, Dominique Alba.
Pour revenir à Notre-Dame, il y a quelque chose d'absurde dans ces 5 ans, tout le monde le souligne, mais c'est surtout, on a connu pendant 10 ans les halles à l'état de chantier, on s'y est habitué, on a compris qu'une ville, c'était un chantier permanent. C'était pas très très grave. Et je pense qu'on est assez adulte par rapport à notre usage de la ville pour accepter cette espèce de miracle accidentel qu'on ait un chantier pour 20 ou pour 30 ans en cœur de Paris, sur l'île de la Cité, et qu'il n'y a absolument aucun impératif d'urgence. Il y a de la place. Le parvis est une création très tardive d'Haussmann, et avant, on savait que Notre-Dame apparaissait soudain dans les derniers mètres en levant la tête. On peut très bien mettre un chantier là, il y a la place. Et on voit aujourd'hui les endroits qui font beaucoup de succès de produits touristiques, c'est par exemple le château de Guénelon dans l'Yonne, qui est un faux château fort qu'on reconstruit, etc. Les gens sont très preneurs de ça. Il y a toute la possibilité de fabriquer quelque chose, une sorte de site qui soit à la fois touristique, patrimonial, historique. Il n'y a absolument aucune raison.
En fait, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de raison de le finir, quoi, ce chantier. C'est mieux quand c'est en cours.
Mais c'est ce que disait notre invité de l'autre jour, c'est que les cathédrales s'effondrent quand le chantier s'arrête.
Parce que c'est des chantiers infinis. Vous trouvez qu'il manque un chantier à Paris, qui est une ville dans laquelle on circule admirablement bien en ce moment?
La maire de Paris, Anne Hidalgo. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a tout de suite proposé d'installer un bâtiment temporaire. Et avant que vous rentriez sur ce plateau, j'expliquais que, oui, dans 5 ans, on rentrera dans Notre-Dame, mais ce ne sera pas terminé. Et puis, c'est peut-être l'occasion de se poser la question de ce centre commercial pressé, que vous avez cité.
On sait que les villes sont des palimpsestes. Non, on peut accepter que ce soit un palimpseste long. Ouais.
Les villes se bonifient si elles ont du temps. Elles se bonifient avec le temps. Et après, nous autres êtres humains, on n'a pas le même rythme que les villes. Et donc là, c'est comment on fait les deux en même temps.
Qu'est-ce que vous en pensez,
Jean Nouvel? Je pense que l'histoire doit enrichir et complexifier les villes. Il faut qu'on rende à chaque fois une ville un peu mieux que ce qu'elle était quand on l'a connue. C'est absolument ça, faire de l'urbanisme aujourd'hui. Normalement, ça devrait être ça. Or, actuellement, les villes ne sont plus accueillantes, elles rejettent en fait,
qu'est-ce qu'on a loupé justement, Jean Nouvel, parce que on a parlé des problèmes juridiques, des différents problèmes posés par les concours, qu'est-ce que l'on a loupé? Alors il y a les halles qui de la vie quasi unanime. Non, je parle pas seulement de la canopée des halles. Je veux dire les halles de Baltard. Je pense que tout le monde.
Il y a un chef-d'œuvre, la partie souterraine de Chebutov, est vraiment un chef-d'œuvre d'architecture gothique revisité. Ouais.
C'est non, d'un point de vue d'Orléans.
Ce qu'on a loupé, c'est la façon de faire croître la ville. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait à partir de l'urbanisme que vous évoquiez, c'est un système qui est pratiquement international. C'est-à-dire que c'est uniquement un zoning, c'est une densité, ce sont des gabarits et tout ça, c'est des petites opérations qui ne sont jamais prévues avec un tracé, jamais avec une globalité. Il n'y a pas de vision, et donc on a une ville qui se déliquéfie. Voilà.
Un mot pour conclure, Dominique Alba. Merci beaucoup.
Je crois que on parle beaucoup des choses ratées, Jean Nouvel a raison, mais on pourrait parler aussi des choses jolies. Les villes essaient quand même, sont conscientes de ça, et je voudrais citer un bâtiment temporaire qui avait fait l'unanimité, qui est aussi un élément d'architecture, qui est le camp de migrants installé à la porte de la chapelle, réalisé par Julien Belair et Anne Hidalgo.